Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 7 décembre, nous reviendrons sur la grève qui va affecter le service Rhône Express pendant toute la durée de la fête des Lumières. Troisième semaine de grève également sur le site Sanofi de Marcy-l'Étoile. Les salariés du site de Gerland ont également rejoint le mouvement. Grégory Doucet a saisi la justice et le procureur de la République après l'agression de deux militants LFI lors d'une opération de tractage aux abords du métro au Vieux-Lyon lundi soir. La région lyonnaise serait une plaque tournante qui alimenterait le sud du pays en ce qui concerne la contrebande de cigarettes. Philippe Maurice organisait hier une table ronde à Lyon sur le sujet. La ville de Villeurbanne propose pour la deuxième année consécutive aux habitants de participer à la vie de leur commune un budget participatif d'1 200 000 euros. Les 21 projets retenus sont désormais connus. Explications et reportages dans ce quart d'heure lyonnais. Et puis nous reviendrons sur la fête des Lumières qui débute demain soir pour 4 soirées avec un projet participatif pour la place Bellecour. Peut-être allez-vous y retrouver votre lampe de chevet.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Conducteurs, agents de bord et de liaison de Rhône Express ont déposé un nouveau préavis de grève du 8 au 11 décembre. La navette qui relie la gare de la Part-Dieu à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry devrait donc connaître des perturbations en pleine fête des Lumières. Les salariés dénoncent toujours la dégradation de leurs conditions de travail. Ils indiquent que les négociations menées avec Transdev Rail Rhône, exploitant de Rhône Express, n'ont pas abouti jusqu'à présent. Troisième semaine de grève sur le site Sanofi de Marcy-l'Étoile, une augmentation mensuelle de 300 euros et une prime Macron de 6 000 euros sont réclamés. Les salariés du site de Gerland ont rejoint le mouvement. Une centaine de salariés ont bloqué hier les entrées et sorties de camions durant toute la matinée sur le site lyonnais. Les salariés veulent leur part de l'immense gâteau de bénéfices de leur groupe. La direction ne semble pas disposée à s'aligner sur les prétentions des grévistes et des syndicats. La proposition de revalorisation de 4,5% assortie d'une prime de 2 000 euros correspond déjà à un effort conséquent, estime la direction de Sanofi. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la ANSM, estime pour sa part que les mobilisations actuelles qui touchent une quinzaine de sites du laboratoire auraient un impact minime sur la production de médicaments. Elles ne seraient en tout cas pas à l'origine de la pénurie de Doliprane.
Lyon Demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde.
L'agression de deux militants LFI lors d'une opération de tractage aux abords du métro au Vieux-Lyon vers 18h lundi. Tous deux devaient déposer plainte hier. Ils diffusaient des tracts réclamant l'interdiction de la Louque de Noumsoum et la fermeture des locaux fascistes dans le Vieux-Lyon, notamment la Gaugée et la Traboule. Le collectif Fermons les locaux fascistes, qui rassemble diverses organisations de gauche, demande la dissolution du groupe d'ultra-droite Les Remparts et la fermeture de ces locaux. Les Remparts avaient annoncé une marche jusqu'à la basilique de Fourvière ce 8 décembre, manifestation finalement interdite par la préfecture. Grégory Doucet et son adjoint à la tranquillité publique, Mohamed Chih, ont saisi la justice et le procureur de la République via l'article 40 du code de procédure pénale. Le maire de Lyon avait écrit il y a quelques semaines au président de la République. Il appelle à dissoudre ces groupuscules et fermer les locaux. Philippe Maurice a organisé hier une table ronde à Lyon et ce deux jours après que le ministre en charge des douanes, Gabriel Attal, ait présenté son plan contre le trafic de tabac. Le gouvernement veut harceler les trafiquants et démanteler 10 réseaux par an. L'expérimentation lyonnaise d'une task force pour coordonner les interventions des douaniers avec la police et la gendarmerie sera étendue en 2023 à 8 autres villes. Les peines encourues pour importation, contrebande et vente illégale de tabac au détail seront durcies. Environ 2 millions de fumeurs consommeraient des contrefaçons à 3, 4 ou 5 euros le paquet, selon Daniel Bruckel, chef de service prévention du commerce illicite chez Philippe Maurice France. La région lyonnaise serait une plaque tournante, selon lui, qui alimenterait tout le sud du pays.
Lyon Demain, idée en partage.
La ville de Villeurbanne propose pour la deuxième année consécutive aux habitants de participer à la vie de leur commune. Le budget participatif s'élève à 1 200 000 euros. Les 21 projets retenus sont désormais tous connus. De l'atelier couture, les cousettes des écoles au repère café pour apprendre à réparer son frigo ou son ordinateur. Tous les secteurs sont concernés. Amael Chousbat et Hassan Sarr ont créé Papi Mami Happy. Ils nous expliquent le fonctionnement de cette application.
Papi Mami Happy, en fait, ce sera une application qui va permettre de fédérer, de lier en toute confiance et en toute sécurité les personnes âgées d'un côté et les bénévoles de l'autre. Les bénévoles d'ailleurs qu'on va appeler les happier. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, ça va permettre de lutter contre l'isolement, partager du temps avec les personnes âgées. Donc partager du temps avec les aînés autour vraiment de deux choses principalement, le temps et l'attention. Parce qu'aujourd'hui vraiment, on voit qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées.
C'est voilà. Quoi la difficulté du projet là?
Bon, la difficulté du projet aujourd'hui a été beaucoup plus sa plateforme, l'outil de travail aujourd'hui. premier, en fait, ça va être l'application. Et ensuite, ben, du coup, par rapport à la population qu'on vise, donc qui sont des personnes âgées. Aujourd'hui, carrément, on va beaucoup plus travailler dans un premier temps avec des aidants, donc qui, eux, sont les personnes qui sont à même de travailler ou d'utiliser un smartphone. Et puis, ben, viser les personnes âgées de plus de 65 ans, dans les tranches de 65 ans à peu près 75 ans. Donc là, la difficulté, en fait, a été beaucoup sur la communication, arriver à vendre le projet dans ce sens-là pour que le projet application ne fasse pas peur. Comme l'a dit Hassan, l'idée est là. L'idée, c'est vraiment de fédérer les personnes et de pouvoir sortir les personnes âgées de l'isolement et de la solitude.
Le budget participatif, il était important à Villeurbanne pour réaliser ce rêve, en quelque sorte.
Ah oui, absolument, absolument. Franchement, et d'abord, on tient à les remercier et à les féliciter parce qu'ils nous suivent vraiment. Ils n'essaient pas de changer le projet. Le projet, il est là. C'est un projet qui est vraiment très intéressant et très utile. Ils nous ont suivis dans ce projet-là et nous ont accompagnés. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui maintenant, par les biais de ce budget participatif, que nous, depuis aujourd'hui maintenant, 3 ans exactement, qu'on travaille là-dessus, parce qu'on a déjà eu à faire des actions pendant au début du Covid. Et aujourd'hui, avec par le projet participatif, on va pouvoir réaliser ce projet-là, créer l'application et le développement et l'utiliser et le mettre à disposition. Vraiment, merci pour le budget participatif qui nous offre cette opportunité-là.
Yves Dubillard a lancé pour sa part un projet de location de vélo cargo à prix très abordable. Un budget alloué de 20 000 euros permettra l'achat de 4 vélos cargo avec des accessoires. Yves est parti de son expérience personnelle pour détecter un besoin de plus en plus prégnant.
J'avais besoin d'acheter un mini lave-vaisselle pour ma fille. Et n'ayant plus de voiture, pour ramener ça, ça fait quand même 35 kilos. C'est un peu difficile, donc j'ai cherché quelle solution on pouvait trouver. J'ai été obligé de louer une voiture électrique, mais ça ne m'a pas plu parce que j'ai fait 3 fois le tour du quartier pour trouver le sens unique qui va bien, pour pouvoir se garer. Et donc, je lui ai dit, c'est, mon vélo ne suffit pas, un vélo cargo, ce serait bien. Sauf qu'un vélo cargo, ça coûte cher. Et donc, la location, ça permet effectivement, pour des besoins ponctuels, de répondre à ce besoin. Quoi.
Et ça va fonctionner comment, alors ?
Donc, le principe, ce sera une association qui va gérer le stockage des vélos, l'entretien des vélos et la mise à disposition. Les gens qui souhaiteront en profiter, en bénéficier, il suffit d'adhérer à l'association, je crois que c'est quelque chose comme 10 euros par an. Et à partir de là, ils pourront accéder à la location de ces vélos, à un tarif qui sera calculé juste pour amortir les frais d'entretien et de garage, etc. Mais qui restera tout à fait accessible et abordable.
Un peu comme l'autopartage, mais adapté au vélo cargo.
Exactement, oui, c'est ça, le vélo partage.
Joli pactole pour la réalisation d'une fresque participative, symbole du renouveau du quartier Saint-Jean. 80 000 euros alloués. Nous avons rencontré Catherine Blaffa, initiatrice de ce projet.
Le quartier Saint-Jean va être en plein essor, au niveau économique et social. Il va y avoir des bâtiments qui vont sauter. Il va être en plein essor, et en plus de ça, il y aura le tram T9 qui va passer. Voilà. Et donc, ça aurait été pour revaloriser le quartier Saint-Jean. Et donc, ça va être des jeunes qui vont être co-acteurs de ce projet-là avec le centre d'animation de Saint-Jean.
Et vous avez en projet de faire une fresque, c'est ça ?
Voilà, une fresque qui va représenter donc le quartier Saint-Jean, donc son passé, où il y a eu quand même pas mal de vie, son présent, et le futur, ça sera les jeunes qui vont voir comment ils vont définir le futur du quartier Saint-Jean.
Avec la volonté, évidemment, de créer du lien social ?
Oui, exactement, oui. Et ça va se permettre aux jeunes de recréer un lien social et de revaloriser ces jeunes qui sont un peu délaissés.
Qu'est-ce qui vous manquait pour réaliser ça ? L'argent, c'est ce que vous avez trouvé au budget ?
Oui, l'argent. Ouais. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut démarcher beaucoup de personnes justement pour avoir l'argent.
Un projet davantage tourné vers la nature en ville et la biodiversité. Élodie Gérard veut entraîner un groupe d'habitants dans la création d'espaces permettant d'accueillir insectes et oiseaux.
Dans les parcs, tout est un peu trop polissé. Donc l'herbe est très souvent tondue, les arbres taillés, les enfants jouent un peu de partout et surtout il y a souvent des chiens. Donc les insectes, les oiseaux et la petite faune qui sont les habitants naturels de ces parcs et des jardins n'ont plus vraiment d'espace sécurisé et disparaissent. Donc si on pouvait faire des petits espaces de 10 mètres, entre 10 et 20 mètres carrés par parc, vraiment préservés, c'est-à-dire derrière des barrières qui interdisent l'accès sur surtout aux chiens, avec des herbes hautes, des petits nichoirs, des tas de bois. Ça permettrait à cette petite faune de revenir, rester d'année en année, de se reproduire et être en sécurité dans ces petits endroits-là.
Et ça, ça appartient aux habitants de se préoccuper de ce genre de choses ?
Bien sûr, la ville fait déjà quelques petites choses comme ça dans les parcs, mais j'ai trouvé que c'était pas assez suffisant et que impliquer les habitants, ça permet souvent le respect de ces espaces. Et puis, les personnes avec qui j'ai fusionné le projet, ce sont des enfants. Et impliquer les enfants, c'est toujours impératif dans ces choses-là, parce que ils peuvent, grâce à ces espaces, voir un peu de nature dans notre ville qui est quand même assez urbanisée.
Sur 306 dossiers envoyés, 177 ont été considérés comme éligibles, 55 ont été soumis au vote et 21 sont lauréats. Comment s'est opéré ce choix ? Réponse avec Jonathan Bocquet, adjoint au maire, délégué à la transition démocratique.
La première étape, c'est de vérifier que ce sont des projets qui répondent à l'intérêt général, qui répondent à l'intérêt d'un collectif de villeurbanais. Ensuite, qu'ils sont réalisables, faisables, techniquement, financièrement, notamment dans l'enveloppe allouée au budget participatif. 1,2 million au total, mais 200 000 euros maximum par projet. Et puis enfin, c'est le vote des citoyens. D'abord une sélection de l'Assemblée citoyenne et ensuite le vote de tous les villeurbanais, de tous ceux même qui habitent ou travaillent sur Villeurbanne.
Après, il y a différents projets dans différents secteurs, dans différentes catégories. Comment on fait un équilibre entre, je sais pas, les projets qui sont plutôt autour du végétal, autour du vivre ensemble ?
Le seul critère qu'on a posé comme un enjeu de sélection, c'est qu'il y ait au moins un projet par quartier. On n'a pas filtré par domaine. Il y a eu effectivement des thèmes assez larges, santé, culture, sport, solidarité, etc. Enfin, je crois qu'on a vu tous les thèmes possibles de politique publique. Et les habitants votaient pour leurs préférés. Je pense qu'ils n'ont pas sélectionné spécialement par thème. Et au final, parmi les 21 lauréats, on voit que cette diversité, elle reste en fait parmi ceux aussi qui sont récompensés.
On a l'impression aussi que la situation finalement est inversée. C'est-à-dire que d'habitude, c'est plutôt les élus qui dictent un petit peu leur projet et puis sur un programme sur lequel ils ont été élus. Là, on a l'impression que c'est l'inverse. C'est ça l'idée, c'est de faire remonter les choses de l'habitant.
C'est exactement l'objectif, c'est de créer des dynamiques qui partent des habitants de repérer des initiatives, des projets, des idées, des sensibilités aussi qu'on n'aurait pas forcément repéré directement en tant qu'élu. Donc c'est pour ça qu'évidemment on va mettre en place déjà tout ce qui est tous les lauréats, tous les projets lauréats. Mais en fait les élus sont très attentifs en fait à l'ensemble des propositions habitantes parce que ça nous permet de voir un petit peu si on aurait peut-être quelque chose dans un angle mort. Donc on regarde tout. On va mettre en œuvre sous 18 à 24 mois les projets lauréats et puis on va regarder le reste. On va continuer la dynamique. Il y a un enjeu important, c'est d'abord la rencontre entre les porteurs de projets et ensuite la rencontre entre les porteurs de projets et les services techniques. Et ça aussi, c'est extrêmement nouveau. Les services techniques se mettent à disposition et au travail pour les habitants. Évidemment, l'élu reste un intermédiaire, mais je dirais qu'il est plus qu'un intermédiaire de facilitation entre l'habitant et le service.
Parmi les lauréats, le Hangar Computer Club dans le quartier Château-Gaillard, un lieu dédié à l'art numérique dont on avait parlé sur cette antenne et qui va recevoir 170 000 euros pour réaliser des travaux d'isolation. 21 projets qui vont maintenant devoir mobiliser leurs énergies pour entrer dans une phase concrète et utile pour les villeurbanaises et villeurbanais. La fête des Lumières débute demain soir et pour 4 soirées, la ville de Lyon a choisi un projet participatif pour la place Bellecour. Objectif que les Lyonnais se réapproprient leur fête. 1000 lampes ont été collectées par le foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Elles vont former une fresque lumineuse dont le cœur battra au rythme de la musique imaginée par le collectif Fils de Créa. Les lampes vont former un simple message, I love light. Certaines ont été customisées par des enfants. Des lampes des années 40, 50 et jusqu'à aujourd'hui, de toute forme, de toute taille et d'une valeur variable. Le système d'éclairage initial a été remplacé par des guirlandes LED et le réemploi ne va pas s'arrêter là. À l'issue, les lampes en bon état seront rendues au foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Les lampes restantes feront l'objet d'une vente aux enchères. Les bénéfices tirés de cette vente reviendront également au foyer. Le cabinet Arthur Lloyd vient de placer la capitale des Gaules en tête des villes les plus attractives et résilientes de France, et ce pour la 6e année consécutive. La capitale des Gaules s'impose sur le volet immobilier tertiaire et accueil des entreprises. Elle décroche la 3e place sur le critère qualité de vie. Parmi les faiblesses identifiées, Lyon arrive en 5e position sur l'item cadre environnemental et risque climatique, avec un accroissement sensible des vagues de chaleur à l'horizon 2050. Lyon est la métropole régionale la plus créatrice d'emplois. La ville a créé 25 600 emplois depuis le déclenchement de la crise économique. Enfin, un mot de sport, les filles de l'ASVEL se déplaceront à Tarbes en quart de finale de la Coupe de France. Les garçons, quant à eux, auront la chance de recevoir en huitième de finale la chorale de Roanne, qui les avait battus 89-83 le 23 octobre à Vacheresse. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition. Excellente journée.